La carte blanche, Africa Radio.
Et avant de retrouver notre invité carte blanche, je vous rappelle que ce soir nous parlons des contestations électorales en Afrique francophone. Qu'est-ce qui fait problème? Et Jules Brou est en ligne avec nous. Monsieur Brou, pas encore pour parler donc de l'actualité de la semaine. Jules Brou qui est consultant stratégie digitale et analyste politique qui devrait plus tarder à nous entendre dans cette rubrique carte blanche. On parlera avec lui entre autres, de l'acquittement de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, mais aussi de l'ouverture du procès cette semaine, ici en France, du bombardement du camp militaire de Boaké en 2004 en Côte d'Ivoire, et enfin du confinement, le troisième de la France. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron ont-elles rassuré les Français? Et nous allons en parler dans quelques instants avec notre invité, carte blanche. Monsieur Brou, bonsoir. Non, on me fait signe qu'on n'est pas encore en ligne avec Monsieur Brou. On va, en tout cas, avant de revenir peut-être à Monsieur Brou, retrouver nos invités dans quelques instants. Et je vous rappelle que nous parlons ce soir des élections présidentielles contestées dans plusieurs pays d'Afrique et notamment francophones, qui sont souvent émaillées de fortes contestations, mais aussi de violentes tensions. Et on va également parler, entre autres, du cas de la Guinée, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Centrafrique et encore récemment du Niger, où le président Bazoum a d'ailleurs prêté serment ce vendredi. On me fait signe à présent que notre invité Jules Brou est en ligne. Monsieur Brou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Consultant stratégie digitale et analyste politique. Votre premier sujet, c'est l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, par la Cour pénale internationale.
Oui.
Oui, que vous a inspiré cette actualité? Ils sont blanchis tous les deux.
Bien. Après plusieurs années de détention, et Charles Blé Goudé ont été acquittés. Ils sont totalement libres. C'est d'abord un fait qui nous a tous apporté de la joie. Nous sommes heureux en Côte d'Ivoire de ce dénouement. Cette décision de justice émane de la CPI, qui est une autre instance de justice internationale.
L'autre question maintenant, c'est quand vont-ils rentrer en Côte d'Ivoire? Et c'est difficile de donner une réponse à cette question parce qu'elle est éminemment politique.
Évidemment, tout porte à croire qu'aujourd'hui, les Boudés sont acquittés, donc ils sont libres.
La liaison avec M. Brou n'est pas très bonne.
Vous m'entendez?
Oui, vous êtes pourtant ici à Paris avec nous. On ne comprend pas pourquoi la liaison n'est pas très claire. Allez-y, on va poursuivre le pouvoir.
Je disais tantôt que tout porte à croire aujourd'hui que le gouvernement Ouattara facilitera le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour la paix, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale et surtout parce qu'il faut réhabiliter ces combattants de la liberté qui aujourd'hui, aux yeux du monde, ont été déclarés innocents.
Merci beaucoup. Deuxième sujet avec vous, Monsieur Brou, que vous avez souhaité commenter, c'est l'ouverture cette semaine ici à Paris du procès du bombardement du camp militaire de Boaké en 2004 en Côte d'Ivoire. Un procès avec les accusés absents et on attend aussi le témoignage des personnalités qui étaient en place à l'époque des faits.
Bien. Il faut dire que ce contre la rébellion qui tenait le Lord, a provoqué la mort de soldats français. Et par la suite, vous avez pu voir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes heureux que en France se déroule un procès qui pourra faire éclater la vérité. Et mon souhait le plus profond, c'est qu'il y ait la manifestation de la vérité avec une justice équitable.
Merci. Dernier sujet, M. Brou, le troisième confinement plutôt en France. Est-ce que, d'après vous, les mesures annoncées par le président Macron rassurent les Français ? Est-ce qu'elles permettront de freiner justement cette progression du coronavirus ?
Il faut dire que depuis le début de cette crise sanitaire qui, hélas, nous prive, vous savez, je suis un fervent militant des droits de l'homme et des libertés, cette crise sanitaire aujourd'hui, qui nous prive de nos droits les plus fondamentaux, nous avons assisté à un gouvernement français qui n'a pas réussi, tant bien que mal, qui s'est battu. Il faut le dire, cette crise sanitaire touche le monde entier et est inédite. Le gouvernement français a essayé avec des mesures, a improvisé. Peut-être que ça n'a pas totalement marché. Aujourd'hui, avec le discours du président Emmanuel Macron, je le dis moi-même, en tant que résident français, je n'ai pas été rassuré et j'ai bien peur que nous continuions de sombrer.
Merci beaucoup à vous, M. Jules Brou, consultant stratégie digitale et analyste politique. Vous étiez notre invité carte blanche de ce vendredi.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Contestation électorale en Afrique, notamment dans l'espace francophone. Qu'est-ce qui fait problème et comment y remédier ? C'est le thème de notre débat de ce soir avec quatre invités. Martin Zigele, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Ancien Premier ministre centrafricain, président du parti MLPC, vous êtes à Bangui et vous avez été, monsieur Gizigele, plusieurs fois candidat à la présidentielle dans votre pays. Nous avons également le plaisir d'accueillir Newton Ahmed Barry. Bonsoir. Monsieur Barry, vous m'entendez ?
Je vous entends bien.
Merci à vous d'être là, M. Barry, président de la Commission électorale nationale indépendante au Burkina Faso. Hamzat Boukari Yabara, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Historien et auteur notamment de Africa Unité et Panafricanisme aux éditions La Découverte ici à Paris. Omar Gueye, vous êtes professeur d'histoire à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal. Monsieur Gueye, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, messieurs, d'être avec nous. On va essayer d'abord de comprendre les raisons de cette tension électorale en s'attardant notamment sur les plus récentes crises. Vous m'entendez, messieurs, les plus récentes crises électorales, disais-je. Et je vais peut-être commencer par vous, monsieur Zigele, qui avait été plusieurs fois candidat à la présidentielle dans votre pays. Ces tensions interviennent parfois avant le processus, pendant ou après, et dans d'autres cas, on a vu qu'on a assisté aux trois étapes à la fois. Quels sont les facteurs fréquents qui expliquent ces violences, disons d'abord préélectorales, en Afrique francophone ?
Je vous remercie, je salue mes co-débatteurs. Vous savez, le problème des élections en Afrique, c'est comme disait feu le président Yadema du Togo, c'est celui qui habite à côté des toilettes qui peut vous dire qu'il y a réellement mal au ventre dans le village. Et comme vous l'avez rappelé, je suis allé déjà quatre fois aux élections présidentielles et deux fois aux législatives dans notre pays. Donc c'est depuis 2005 que je vais aux élections. Alors, c'est quoi les problèmes que nous rencontrons dans les processus électoraux ? Ça commence d'abord par le recensement électoral. Et le recensement électoral, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui est au pouvoir et qui cherche à se représenter, le recensement électoral ne se fait pas de la même manière que si vous êtes en face de quelqu'un qui ne se représente plus ou si vous êtes dans une transition. C'est très important parce que la préparation des élections, quand vous allez en face de quelqu'un qui est au pouvoir et qui veut empirer, ou que vous êtes en face de quelqu'un qui est un arbitre neutre, soit parce que c'est une transition, soit parce qu'il n'a plus le droit de se représenter et qu'il ne se représente effectivement pas comme cela s'est passé au Niger récemment, vous avez deux contextes complètement différents. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est la volonté effective des politiques de jouer le jeu de la transparence électorale qui imprime sa qualité et sa crédibilité à tout processus électoral. Lorsque c'est un processus administré, contre la volonté de celui qui veut absolument rester au pouvoir, les problèmes commencent, comme je vous l'ai dit, dès le recensement électoral. Le recensement électoral ne se fait pas de manière transparente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on enregistre, plus on enrôle plus d'électeurs dans les zones supposées favorables à celui qui est au pouvoir et veut absolument donc passer en force que dans les autres régions. Donc, vous allez voir de manière assez surprenante que dans un pays, le corps électoral passe parfois du simple au double ou bien connaît des variations qui ne sont pas justifiées sur le plan démographique. Je prends un exemple concret avant de passer au deuxième problème. En Centrafrique, en 2015, nous avions 1 952 000 électeurs et en 2015, c'était la fin de la transition, donc moment de violence, nous avons 1 950 000 électeurs. 2020, nous n'avons plus que 1 850 000 électeurs. Comment se fait-il que la population qui vote régresse alors que le pays est plus en paix, etc. Donc ça, c'est le premier facteur, le recensement. Le deuxième facteur, c'est vraiment pas le déroulement des opérations de vote lui-même, mais c'est comme tout le monde le sait, ce qui se passe lorsque les votes sont clos. Lorsque les votes sont clos, à partir de ce moment, commence un autre processus électoral. C'est-à-dire que les procès-verbaux sont parfois remplis par les représentants, par les présidents des bureaux de vote. Et lorsque cela est fait, et on substitue d'autres procès-verbaux issus des urnes, et lorsque les résultats arrivent à la centralisation, à la capitale, et qu'on les proclame, même ceux qui animaient les bureaux de vote ne se reconnaissent plus dans les
Merci, résultats. Merci, ces procès-verbaux ne sont plus conformes à ceux auxquels parfois
les résultats sortis des urnes.
Merci beaucoup.
Et dans les dernières élections en Centrafrique, qu'est-ce qu'on a trouvé pour simplifier le problème, parce qu'ils étaient très pressés, mais tout simplement, ils n'ont pas distribué les procès-verbaux à nos représentants dans les bureaux de vote.
Merci, monsieur Ziguele. Mais monsieur Ziguele, pardon, permettez, on va faire un tour de table. Il faut que chacun s'exprime avant la courte pause que nous allons observer tout à l'heure. Monsieur Omar Gueye, est-ce que ces éléments que vient de donner monsieur Ziguele, il y en a d'autres qu'il faut ajouter. Il a parlé de problèmes de recensement électoral, le dépouillement des PV qui arrivent parfois non conformes au comité de centralisation. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui explique ces tensions? Allô, monsieur Gueye? On va
oui,
peut-être.
Je vous écoute,
oui, allez-y, oui. S'il vous plaît.
Ça va? Oui, ça va, vous m'écoutez, vous entendez bien?
Oui.
Oui, donc merci beaucoup. Oui, mais tous les problèmes qu'il signale sont réels, effectivement, mais maintenant, ça dépend des pays et de leur degré d'intensité. Dans certains, si on a pu constater une certaine avancée dans ce processus et dans la maîtrise de ce qu'on appelle le fichier de la population électorale. Il y a aussi beaucoup d'avancées par rapport au vote, par rapport à l'utilisation de l'isoloir, par rapport à l'utilisation encore presque acquise de l'encre indélébile, etc., et aussi du décompte des votes. Mais aussi, il faudra ajouter qu'en termes de transparence, les médias ont joué un grand rôle. Dans le cadre du Sénégal, que je connais le mieux, par exemple, en 2000, avec la toute première alternance, on a vu l'importance de l'utilisation du téléphone portable, qui a permis donc aux médias d'avoir les procès-verbaux.
Excusez-moi, M. Gueye, on essaye d'abord de faire un diagnostic, de poser un diagnostic. Est-ce que vous pouvez donner très brièvement pour vous les causes des tensions électorales? On viendra tout à l'heure pour voir comment améliorer la situation.
D'accord, donc c'était un peu pour renforcer ce qu'il avait dit, mais surtout pour les tensions électorales, il faudra surtout voir qu'il y a d'abord les enjeux politiques, il y a les enjeux de patrimonialisation de l'État, mais aussi surtout, il y a une professionnalisation de la politique, c'est-à-dire que dès l'instant où on termine une élection, on est dans le processus de l'organisation de la prochaine élection. Ça, c'est un problème. Et ensuite, l'autre problème, c'est que, en fait, une fois qu'on est arrivé à l'État, l'organisation des élections, c'est souvent une façon de légitimer le pouvoir, donc quelque part gagner par tous les moyens. Et il faut voir aussi dans la conception africaine, c'est la conception du chef. Et dans la conception du chef, c'est aussi souvent un règne ad vitam aeternam, donc c'est à vie. Donc l'organisation des élections, en fait, ne serait peut-être qu'un moyen de légitimer un
pouvoir. C'est-à-dire on part aux élections avec la conviction de la remporter pour ceux qui sont au pouvoir.
Oui, mais souvent on dit mais on organise des élections pour les gagner. Donc
merci.
souvent c'est une certaine conception qu'on a. Il y a la compétition ethnique aussi, une certaine concurrence, et surtout ça se traduit sur une focalisation sur l'élection présidentielle.
Merci
souvent,
beaucoup.
On oublie aussi il y a beaucoup d'autres élections locales intermédiaires qui se passent.
Et monsieur Yabara, vous faites la même analyse que les deux précédents intervenants sur les causes de ces tensions?
Oui, je fais la même analyse. Je rajouterai la question de l'absence de séparation des pouvoirs. Je pense qu'il pourrait résumer et faire la synthèse en tout ce qui a été précédemment dit. La censure des médias, donc le fait de couper l'Internet, le fait aussi d'avoir différentes lectures à la fois des constitutions en amont et des résultats en aval. Donc tous ces éléments-là vont ajouter aussi à des faits classiques de corruption, de fraude, de bourrage d'urne, font que la question des élections est souvent chrysogène. Je pense qu'il faut effectivement souligner, comme l'a dit le camarade M. Gay précédemment, que les élections ne se résument pas qu'à l'élection présidentielle et que les élections locales doivent être aussi des baromètres du scrutin national. Donc il y a aussi un travail, je pense, à faire au-delà de la seule élection présidentielle pour renforcer probablement les mécanismes électoraux de nos États. Un dernier élément qui est lié au fait que nous avons des élections qui sont souvent validées de manière très problématique. Donc se pose la question de l'arbitrage et de l'ingérence. Lorsque nous avons des observateurs, est-ce qu'ils sont réellement neutres? Donc tout ça aussi renvoie, je dirais, à la sécurisation des scrutins.
Merci beaucoup. Et justement, Anuta Ahmed Barry, vous êtes présent de la commission électorale du Burkina Faso. Parfois, les commissions électorales sont aussi au centre de ces crises, accusées d'un camp comme de l'autre, d'un camp comme l'autre, de ne pas être impartial.
Non, je pense que la situation est relativement complexe et bon, et elles ne sont pas partout les mêmes, hein. J'ai vu tout à l'heure l'intervention de M. Ziguele en Centrafrique. Je ne connais pas très bien la Centrafrique. Malheureusement, je ne connais pas le niveau aujourd'hui de la commission électorale au niveau de la Centrafrique. Mais je pense que, en fonction aujourd'hui des régions, en Afrique de l'Ouest par exemple, on a quand même fait beaucoup d'avancées, même si, évidemment, en cette matière-là, il n'y a jamais, je vais dire, quelque chose de relativement satisfaisant pour tout le monde. On a beaucoup avancé et je pense aussi qu'après, dans le débat, on pourra interroger un certain nombre de points parce que c'est bon parfois de jeter l'anathème, mais la question de fond aujourd'hui, c'est que la plupart des politiques ont une certaine incurie. Moi, j'ai entendu tout à l'heure M. Ziguele, et à juste raison, pointer le fichier électoral. Mais la meilleure façon de régler cette question, c'est que les politiques s'entendent pour éviter les révisions exceptionnelles du fichier électoral. Il y a les moyens de réviser annuellement, c'est-à-dire en dehors d'une élection, un fichier électoral. Et en ce moment, en le faisant au moment où il n'y a pas beaucoup de passion, on a toutes les chances d'avoir un fichier électoral qui reflète la réalité. Mais hélas, apparemment tous les partis politiques, tous les politiques sur cette question-là s'entendent, parce que ça, ce sont d'autres choses aussi. Mais il faut le dire, c'est-à-dire que si on...
Mais excusez-moi, M. Barry, là, on va parler des solutions dans un instant. Je le faisais remarquer à M. Gay aussi, mais dites-nous au niveau de la commission électorale, pourquoi il y a souvent aussi cette crispation au niveau de la commission électorale, souvent accusée, comme je l'ai dit, par l'une ou l'autre politique, l'un ou l'autre parti politique, de ne pas être équilibré? Ça crée aussi des tensions.
Moi, je pense que si les deux camps vous accusent de ne pas être impartial ou d'être partial, ça veut dire que relativement, vous êtes au juste milieu. En général, c'est plutôt mauvais quand c'est un seul camp qui vous accuse. Vous êtes dans l'organisation des élections, vous avez deux compétiteurs en général. Vous avez donc la majorité, qui est très souvent celle qui gouverne, et vous avez l'opposition qui aspire à avoir le pouvoir. Donc, évidemment, c'est une suspicion qui ne finit pas entre les deux et chacun regarde. Mais je pense que la composition des commissions électorales répond dans une large mesure. Merci. À cette question.
Merci, M. Barry. On va marquer une pause et vous conclurez tout à l'heure.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Pourquoi autant de tensions lors des compétitions électorales en Afrique et notamment dans l'espace francophone. Nous en débattons ce soir avec quatre invités. Hamzat Boukari Yabara, historien. Omar Gueye, professeur d'histoire à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Newton Ahmed Barry, président de la commission électorale du Burkina Faso. Et l'ancien premier ministre centrafricain Martin Zigile, plusieurs fois candidat à la présidentielle dans son pays. Monsieur Barry, on va poursuivre encore quelques petites minutes seulement sur les causes de ces violences, puis nous parlerons de leurs conséquences sur le pays. Mais je vous laisse terminer, M. Barry, vos propos sur le déséquilibre de la commission électorale qui est aussi parfois source de tensions.
Non, pas de déséquilibre. Je veux dire, en général, les commissions sont équilibrées parce qu'on y retrouve tous les représentants des camps, c'est-à-dire aussi bien des personnalités représentant l'opposition que des personnalités représentant la majorité. Et en général, la société civile est arbitre, c'est vrai.
Mais c'est peut-être le problème se situe au niveau du nombre, parce que si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, l'opposition a même dû saisir la Cour européenne, la Cour africaine, pardon, des droits de l'homme. C'est le cas au Bénin, ça a été le cas dans d'autres pays.
Je voudrais simplement vous faire remarquer, madame, que cette même commission en Côte d'Ivoire qui est remise en cause aujourd'hui, c'est celle qui avait organisé les élections de 2010 dans le même format et ça n'a pas changé. Donc c'est en fonction des moments en fait. Donc cette histoire n'est pas, je ne dédouane pas, hein, je ne dis pas ça. Je vous donne seulement des éléments d'appréciation pour vous dire qu'en fonction du moment, ce qui est important, c'est le consensus politique à la veille d'une élection.
Merci.
Si les acteurs s'entendent et arrivent à se mettre d'accord, et c'est d'ailleurs ce que le protocole additionnel de la CEDEAO recommande, que les acteurs se mettent d'accord sur les mécanismes des élections.
Merci beaucoup. Monsieur Zigele, Monsieur Barry a insisté sur le consensus qui doit prévaloir avant même d'aller aux élections pour prévenir ces crises. Mais pour le cas de votre pays, par exemple, et dans d'autres aussi, on observe souvent qu'il n'y a pas ce consensus, mais rien n'y fait. L'élection se tient quand même. Et après, on est quelque peu étonné de voir les contestations et les tensions.
Oui, c'est pour ça que je suis absolument d'accord avec M. Barry. Tout ce qu'il a dit est absolument vrai. Si vous et moi, nous sommes d'accord pour faire quelque chose, nous le ferons bien. Parce que vous avez intérêt à ce que ça se passe bien. Moi aussi, je souhaite que ça se passe bien. Donc nous additionnerons les meilleures expériences, nous additionnerons les meilleures initiatives et nous arriverons à un processus forcément transparent. Je vous donne un exemple. Avant la mise en place des structures paritaires d'organisation des élections dans nos pays, ou aujourd'hui dans certains pays, par exemple au Sénégal ou en France ou ailleurs, ben c'est la Direction générale des élections du ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et si une administration l'a fait bien, mais si il y a plusieurs compétences réunies ensemble et qu'en amont, il y a la volonté politique et le consensus pour bien faire, ben rien n'est impossible. Le problème, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que les Anglais appellent les natural hazards. C'est-à-dire, au départ, il y a la volonté d'une partie de gagner coûte que coûte les élections. Je parle de l'expérience de la République centrafricaine et de certains pays d'Afrique centrale. Parce qu'il faut le dire aussi, ce problème-là, on le rencontre beaucoup plus en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, avec des petites exceptions en Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique centrale, c'est un glacis des problèmes électoraux. Parce que vous avez en face quelqu'un qui veut coûte que coûte gagner les élections. Et si possible, au premier tour, enfin...
Le coup KO, le fameux coup KO.
Vous avez de l'autre côté... Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des partis d'opposition qui sont face à quelqu'un qui a le pouvoir et qui refuse le consensus. Mais comment vous faites?
Mais M. Zigele, ma question était de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas consensus, l'opposition, on assiste souvent au cas où il n'y a pas consensus, mais l'opposition, comme le pouvoir qui refuse de céder sur certaines réformes, vont aux élections dans ces conditions, et après, l'opposition très souvent en conteste les résultats.
Oui, mais parce que quand vous n'allez pas aux élections, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit c'est parce que vous savez que vous n'avez pas de force, vous n'avez pas d'influence, vous serez battu, que vous faites le mauvais élève, quoi. Vous n'allez pas à l'examen et vous critiquez quand même le sujet. Donc, nous allons aux élections parfois dans l'espoir qu'il y aura un sursaut par rapport d'abord à la population qui va exiger de le respect de ses droits de vote. C'est pourquoi nous insistons, malgré les situations, pour avoir des représentants dans les bureaux de vote, pour collationner les résultats, pour pousser la société civile à nous aider dans la surveillance des bureaux de vote, etc. Mais vous ne pouvez pas dire que s'il n'y a pas consensus au départ, vous n'allez pas aux élections. Dans ce cas-là, je parle toujours de mon pays et de l'Afrique centrale que je connais le mieux, une fois de plus, mais les partis d'opposition n'iraient jamais aux élections.
Parce qu'il n'y aura jamais ce consensus-là.
Voilà.
Merci.
C'est pour ça que le consensus, il est nécessaire. Il faut un rapport de force pour créer le consensus. Mais ce rapport de force-là, j'espère que nous pourrons revenir là-dessus. Ce n'est pas simplement les partis politiques qui doivent travailler à la création de ce rapport de force. Il faut qu'il y ait également d'autres partenaires qui aident à travailler à ce rapport de force.
Merci. On va revenir tout à l'heure en quelques mots sur les solutions à apporter pour éviter de telles situations dramatiques lors des élections. Monsieur Hamzat Boukhari, Yabara, voilà, quand on va aux élections, on sait très bien qu'il y a des aspects qui ne conviennent pas à tout le monde. On est forcément préparé à assister à des contestations, mais les deux parties y vont quand même. Allô, monsieur Yabara ?
Oui, allô.
Oui, allez-y, allô, s'il vous plaît.
Oui, écoutez, des élections, comme ça a été rappelé, elles ont été réinstaurées dans le contexte, on va dire, de l'ouverture au multipartisme. Donc, il s'agissait tout simplement de faire fonctionner la démocratie en Afrique, mais sans tenir compte, je dirais, de l'écosystème général qui existait au début des années 90 sur le continent, lorsque nous sommes passés au multipartisme plus ou moins intégral. Donc il ne s'agit pas uniquement, je dirais, de constater les problèmes au moment où l'opposition ou le pouvoir arrive aux élections, mais de constater qu'il y a un manque de respect des libertés publiques de manière générale qui fait qu'on arrive à des élections sans compétition. Et donc je pense que c'est vraiment en amont que les choses doivent se régler, y compris au sein même des partis politiques, dans la manière dont les candidats aux élections sont, choisis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur même des partis politiques...
Vous voulez parler de la notion des primaires, peut-être ?
Ça peut être le cas des primaires, par exemple. En tout cas, ça peut être au niveau des partis politiques où un certain nombre de garde-fous peuvent ou devraient être instaurés. Malheureusement, nous avons un fonctionnement où, comme ça a été souligné, c'est le culte du chef. Quel que soit le nombre de mandats, on estime qu'il n'y a personne d'autre en capacité de prendre le relais. Et donc je pense que c'est vraiment au niveau même des partis politiques qu'il y a un vrai travail de remise en cause à faire aujourd'hui. Et pour cela, il faut espérer que les prochaines générations feront ce travail-là. Donc je pense que nous avons aussi des partis qui sont nés dans des contextes bien précis. Beaucoup sont des continuités de partis uniques d'une certaine époque. Et donc je pense qu'il y a aussi tout ce...
Qui ne sont pas forcément préparés à accepter l'alternance.
Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que ce sont des éléments qu'il faut aussi regarder intrinsèquement à l'intérieur des structures politiques. Et lorsque nous avons des partis non démocratiques en interne qui se présentent dans ce cadre-là, ça ne peut aller, je dirais, qu'au clash, avec évidemment la volonté de garder le pouvoir, donc un harcèlement de l'opposition, une politisation des institutions, un calendrier électoral qui est plus ou moins modifié en fonction des intérêts et le sentiment pour l'opposition qu'il n'y a que la possibilité de s'autoproclamer vainqueur pour faire respecter ce qui est perçu comme une volonté populaire.
Merci,
donc,
monsieur.
À mon sens.
En tout cas, ces autoproclamations de la victoire ne fonctionnent pas, on a vu dans plusieurs pays. Alors, monsieur Omar Gueye, est-ce que historiquement, les élections, qu'elles soient présidentielles, locales ou législatives, sont plus problématiques dans l'espace Afrique francophone qu'ailleurs?
En fait, en fonction de l'évolution, maintenant, il y a une certaine focalisation sur la présidentielle. Bon, mais avant les indépendances, c'était plutôt dans le cadre du Sénégal, la fonction de député qui était à la représentation française pour les quatre communes, qui était l'enjeu phare des élections. Donc, mais maintenant, depuis, on a vu, il y a une construction de la démocratie qui pose vraiment problème. Qui pose vraiment problème.
Mais
dans
le est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a plus de problèmes dans les pays francophones? Est-ce que les élections sont plus contestées dans l'espace francophone que dans celles anglophones, par exemple?
Dans l'espace francophone, si je prends le cas du Sénégal, c'est un pays qui vote depuis le 19e siècle, depuis 1848 au moins jusqu'à maintenant, c'est des élections régulières qui sont organisées. Ça veut dire qu'il y a une tradition d'élections. Il y a une tradition de compétition électorale, bien entendu, avec tout ce qui vient avec. Donc, toutes les violences, les fraudes, et tous les problèmes sur la maîtrise du fichier, etc. Bon, mais maintenant, on a l'impression que souvent, l'histoire se répète. Parce qu'il y a des sortes difficiles pour faire des élections. Et aujourd'hui, il y a une certaine forme de suspicion, ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes, de sorte qu'une sorte de manichéisme qui font que les gens se regardent donc de façon bizarre. Il y a la question de la confiance qui se pose. Même aujourd'hui, les institutions qui sont mises en place, on a parlé tout à l'heure des commissions électorales nationales indépendantes, en réalité, il y a beaucoup de questions qu'elles soulèvent. Et aussi, à côté, il y a toujours les institutions stratégiques, le ministère de l'Intérieur, tout puissant avec l'administration. Il y a le Conseil constitutionnel, souvent, qui doit administrer. Et on a encore superposé d'autres institutions, comme la direction des générale des élections, dans le cadre du Sénégal, par exemple. Et c'est une certaine forme de démultiplication. Et au bout du compte, le véritable problème qui se pose, c'est la question de la confiance, déjà entre les groupes, mais aussi la question de la démocratie
elle-même. Oui, même la confiance en les institutions électorales.
Il y a la question de la confiance, même quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, même à l'intérieur des partis, l'alternance n'est pas une culture. Parce que quand on est chef de parti, on est chef de parti et de fait, on est le candidat du
naturel,
parti.
Naturel, comme on entendait.
Le candidat naturel. Même si on dirige une équipe de football, une association de quartier, quand on est chef, on doit passer, n'est-ce pas? Donc ça, c'est au niveau de la culture démocratique d'abord. Et de façon générale, même dans le processus électoral, c'est toujours un processus qui introduit un précontentieux électoral. Parce qu'on ne voit que la victoire des deux camps.
Merci, M. Obake.
Ce qui fait que maintenant, il y a l'enjeu du pouvoir, celui qui organise, il y a la maîtrise du calendrier électoral.
Merci
beaucoup.
Parce
que dans certains pays, on organise les élections que si on est sûr de les gagner. Donc, ce qui encore ajoute un peu à l'opacité donc, du processus.
Merci, M. Gueye. Je ne voulais pas me retrouver à être obligé de couper M. Barry avant la pause. Alors, M. Barry, est-ce qu'il y a des tensions je veux dire, est-ce qu'il y a une spécificité à Afrique francophone pour ce qui est des tensions? Ou autrement dit, est-ce que les tensions électorales sont une particularité de l'Afrique francophone?
Bon, moi, je regarde l'espace ouest-africain, dans le cadre de la CEDEAO. Quand vous regardez cette année 2020, on est déjà, je parle des élections de 2020, parce qu'on est juste au premier trimestre de 2021. En Afrique de l'Ouest, il y a eu 5 élections environ présidentielles au Ghana. Comme vous le savez, il y a eu au Burkina, il y a eu
En Côte d'Ivoire et en Guinée.
Au Côte d'Ivoire, au Niger. Mais si vous regardez, la tension est partout. Au Ghana, qui était considéré aussi comme un exemple de démocratie, les élections ne se sont pas particulièrement très bien tenues. En tout cas,
mais quand on prend les 4 autres pays d'Afrique francophone, en dehors du Burkina, où le début de tension a très vite été géré, il y a eu de fortes contestations en Guinée, en Côte d'Ivoire et maintenant au Niger.
Vous n'avez qu'un seul pays anglophone cette année qui a organisé les élections.
C'est vrai.
Donc,
aussi.
Donc, si vous voulez faire des ratios, vous ne pouvez pas prendre... Il y a 5 pays francophones contre 1. Mais dans le 1, où ça s'est tenu, ça ne s'est pas normal. Ça ne s'est pas non plus tenu sans problème. Donc, il n'y a pas de spécificité, à mon avis, francophone, anglophone aujourd'hui. En tout cas, quand je regarde l'espace CEDEAO, il y a plutôt des... Et chaque élection est différente. Les enjeux au niveau des élections, peuvent amener un certain comportement ou une certaine attitude. D'ailleurs, prenez les États-Unis, il n'y a pas longtemps, l'enjeu était particulier cette année et ça donnait ce que ça donnait. Donc, à mon avis, il ne faut pas s'auto-flageller. Il y a des mécanismes qu'il faut penser. Il y a des éléments, on va en parler si vous voulez tout à l'heure, qui peuvent permettre de rationaliser. Et progressivement aussi, il faut qu'une culture électorale et démocratique s'installe. Et ça, forcément, il faut travailler à ça.
Merci beaucoup. On va, messieurs, observer une pause et parler enfin dans la dernière partie, il y a quelques petites minutes, des conséquences, avant d'aborder les solutions à ces élections généralement tendues en Afrique francophone.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle solution face aux tensions électorales en Afrique francophone? Nous allons aborder à présent cette partie avec nos quatre invités. Hamzat Boukari Yabara, historien. Omar Gueye, professeur d'histoire à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Newton Ahmed Barry, président de la commission électorale du Burkina Faso. Et Martin Ziguele, ancien premier ministre centrafricain, plusieurs fois candidat dans son pays. Messieurs, on parlait tout à l'heure, hein, c'est M. Barry qui parlait de rationalisation. Mais je compte sur vous, hein, pour rationaliser le temps de parole. On n'a plus qu'à peu près 9 minutes pour conclure ce débat. Et je voudrais peut-être juste un mot, Monsieur Boukari, sur les conséquences de ces tensions électorales. Elles sont parfois terribles. Elles débouchent des semaines, des mois, des années de conflits, de paralysie avec des morts d'hommes. Au finish, la justice n'est souvent pas rendue aux victimes de ces tensions.
Oui, tout à fait. Je pense que des contentieux électoraux sont, occasionnent énormément de dégâts, à tel point que le coût de la démocratie est parfois très lourd pour nos États, mais on ne peut pas y soustraire. Je crois qu'il y a aussi une responsabilité de la part des dirigeants politiques vis-à-vis de la vie de leurs concitoyens pour faire en sorte que ces élections-là se passent de la manière la plus calme possible.
Mais parfois, cette tension se termine aussi autour des arrangements entre politiciens.
C'est le problème, c'est-à-dire
Et les victimes passent par perte et profit, le dégât économique sur l'éducation des enfants, parfois, c'est tout complètement oublié.
On est dans des logiques de crise, contestation, répression, dialogue, réconciliation, gouvernement d'union nationale, et on repart aux prochaines élections pour se diviser. Et ça, je pense que c'est une vraie problématique qui nécessite effectivement qu'il y ait une éducation politique dès le plus jeune âge, qu'il y ait peut-être des simulations d'élections dès le plus jeune âge. Rien que les élections syndicales, les élections étudiantes, les élections scolaires, à tous les niveaux, sont des méthodes, je dirais, pour perfectionner nos systèmes électoraux. Lorsqu'on arrive au plus haut niveau de l'État, on constate que très souvent, les dégâts qui sont infligés sont très difficiles à rattraper. Merci. Surtout dans les systèmes francophones, qui sont des systèmes présidentialistes dans lesquels il y a une très grande ingérence, y compris parfois de puissances étrangères. Donc je pense que le plus grand enjeu par rapport à ces morts d'hommes, c'est la problématique de comment faire quitter le pouvoir. C'est plutôt ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, il faudrait peut-être penser des référendums révocatoires qui permettrait peut-être effectivement de faire partir des dirigeants à mi-mandat ou aux trois quarts de mandat, parce que je pense que le vrai problème, c'est plutôt comment on quitte le pouvoir. Donc c'est la problématique aussi des sortants qui est derrière cette question des crises électorales.
Merci Monsieur Yabara. Monsieur Ziguele, quelle solution pour éviter de telles situations dramatiques qui coûtent cher au pays et parfois qui la vie à plusieurs citoyens?
Oui, c'est vrai. En Afrique, selon le rythme des élections, il y a eu une montée d'adrénaline dans la population, parce que tout le monde sait que les processus étant biaisés dès le départ, face aux sortants, il y aura contestation, parce qu'on ne s'engage pas aux élections pour se faire, excusez-moi le terme, gruger sans réagir. Et donc, il y a une culture qui se construit de manière insidieuse. Et une fois de plus, je parle encore beaucoup plus pour l'Afrique centrale, selon laquelle les élections, on connaît les résultats d'avance. Ça fait également qu'on croit de moins en moins à la voie démocratique pour accéder au pouvoir. Donc la première conséquence, c'est la crédibilité de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Comment vous pouvez accorder du crédit à une constitution, à un pays, à des dirigeants, lorsqu'ils ne sont pas capables de respecter les propres lois électorales de leur parole, de leur pays, qui volent neuf volera un bœuf. Ce qui fait que, de manière générale, nous ne sommes pas crédibles d'abord vis-à-vis de la population, parce que ce que je suis en train d'expliquer, à l'intérieur de nos pays, dans les zones rurales, etc., les gens savent exactement ce qu'ils ont voté. Et lorsqu'ils voient, comme je vous l'ai dit, la proclamation officielle des résultats, ils disent, ben, dans tout ce circuit-là, il n'y a que des menteurs.
Monsieur Ziguele, en 30 secondes, comment éviter donc cela, sachant, vous avez développé tout à l'heure, on parlait des causes,
comment
en 30 secondes,
oui. Moi, je pense qu'il y a un mix. Il y a un mix, peut-être que c'est à nos partis politiques, de remobiliser un peu plus la population pour que chacun s'engage, y compris également les partenaires qui financent les processus électoraux, pour qu'il y ait des lignes rouges. C'est-à-dire que, comme disait M. Oumar tout à l'heure, avant le processus électoral, il faut qu'il y ait une réunion de toutes les parties prenantes pour un consensus sur le déroulement du dialogue. Et puis, chaque fois que quelqu'un passera la ligne rouge, il sera sanctionné.
Merci.
C'est seulement comme ça que je pense qu'on pourra avancer. Parce que, je vous dis, c'est la volonté politique qui manque. C'est pas l'expertise. C'est pas les connaissances techniques. Les problèmes techniques se résolvent toujours quand il y a le technicien. Mais c'est la volonté politique. Et pour imprimer la volonté politique, parfois, il faut que ceux qui financent ces élections-là aient beaucoup plus de réactions. Par exemple, ici en Centrafrique, la communauté internationale qui a financé à 98% les élections est passée sous la table quand il y a la crise. Quand il n'y avait pas de PV remis aux représentants des partis politiques, la communauté internationale qui a pourtant financé les élections a disparu.
Merci.
Elle est devenue à fond.
Merci,
parce qu'ils ont préféré ménager le pouvoir que de se battre pour la crédibilité du processus.
Et la démocratie.
Les raisons diplomatiques.
Merci.
Tout.
Voilà.
Merci. Et la démocratie en paye le prix.
Monsieur Barry, en deux mots, quelle solution ?
Je voudrais d'abord dire à Monsieur Ziguélé, que je respecte d'ailleurs, c'est un grand monsieur que j'ai connu, il ne faut jamais demander à l'extérieur de venir arbitrer chez nous. La question de fond, il faut que les Africains eux-mêmes gèrent ces questions. Je pense que sur la question des PV, il faut mieux former les militants. Parce que si les militants, au niveau des bureaux de vote, exigent les PV, ils ne peuvent pas ne pas l'avoir. Mais si les gens ne sont pas formés, évidemment, ça ne va pas se réaliser. Ça, c'est un. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer. On n'aura pas d'élection, et je vais dire, comme si on allait à une soirée de gala, parce qu'il s'agit des enjeux de pouvoir. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir sans tension. Ce qui nous manque en Afrique, ce sont des institutions fortes de régulation. C'est-à-dire qu'avant, parce que si c'est l'opposition et la majorité qui doivent s'entendre sur les règles du jeu, sans présence de quelqu'un qui peut imposer cela aux deux, évidemment, ils ne s'entendront pas, ça sera le rapport de force. Soit c'est l'opposition qui est très forte, elle va imposer des règles du jeu à la majorité, et vice-versa. Là, comme très souvent, c'est la majorité qui est forte, c'est elle qui impose.
Merci.
Donc, il faut des mécanismes de régulation très forts qui existent, aussi bien au niveau des nations, mais au niveau de la sous-région, qui prépare donc l'élection avant l'élection, pendant et après.
Merci.
Si on n'arrive pas à ça, à mon avis, on peut toujours continuer, mais il n'y a pas d'élection sans enjeu. Ce n'est pas possible, sinon il n'y aurait pas d'élection.
Merci, M. Barry. En quelques mots, M. Omar Gueye, la conclusion, c'est quoi la solution pour éviter des tensions qui coûtent cher finalement à tout le monde ?
Oui, sur une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est-à-dire l'importance des élections en tant que mode de désignation légitime des dirigeants politiques. Là, au moins, sur le principe, tout le monde est d'accord. Mais dans la mise en œuvre, maintenant, comment arriver à réduire les contestations et les contentieux? Et je crois que là, il faudra aussi qu'on revoie les enjeux. Et puis, c'est vraiment une tension légitime, hein, parce que c'est une compétition politique où chacun cherche à gagner. Donc, on peut comprendre ces tensions, mais dans les limites.
Et où parfois aussi, les opposants d'hier arrivés au pouvoir sont pires que ceux qu'ils critiquaient quand ils étaient à l'opposition.
Oui, mais ça c'est le propre aussi des politiques. En général, bon, c'est un peu, il y a beaucoup de, bon, je ne veux pas trop utiliser le mot, c'est de la propagande pour arriver au pouvoir. Donc, c'est aussi toujours dans le discours. Et je crois que le plus important ici, c'est au moins de respecter les règles de la démocratie, les règles que les gens se sont fixées librement. Et surtout aussi donner du crédit aux institutions qui sont appelées à organiser, à arbitrer en cas de conflit. Donc, on a parlé des commissions électorales, du ministère, des conseils constitutionnels, mais il faut une certaine
indépendance. La vérité aussi, c'est que ces institutions sont parfois comme, je veux dire, sont là pour valider toujours les résultats. Et rares sont les fois, oui, où on a vu des cours constitutionnels ou conseils constitutionnels donner des résultats contraires.
Oui, c'est pourquoi je parle d'indépendance, parce qu'en fait, l'objet du contentieux résulte surtout du fait que là, je comprends ceux qui sont dans les partis d'opposition, du fait que souvent, ils ont l'impression qu'il y a une victoire technique en amont qui se construit. Et là, on brise le cercle de confiance. Et à partir de ce moment, je crois que le maître mot pour les élections doit être la transparence. Transparence dans le processus, transparence dans le déroulement du vote, mais aussi transparence dans la proclamation des résultats.
Merci.
Et je crois que si on respecte tout ça, on a beaucoup de chances d'éviter les contentieux et aussi, malheureusement, toutes les violences et les crises
Merci beaucoup, Omar Gueye, professeur d'histoire à Cheikh Anta Diop à Dakar, Hamzat Boukari Yabara, historien, Newton Ahmed Barry, président de la commission électorale de Burkina, et Martin Zigeli, l'ancien premier ministre centrafricain.